Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio. Nous sommes en public et délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris au 31 Place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Sud Radio à Avignon sur 95.2 et puis qu'on peut se retrouver sur la page Facebook d'Invino. Aujourd'hui, nous avons un menu très sympa comme d'habitude. On parlera du vignoble Cabardès, de l'innovation dans le vin. On répondra à une grande question, est-ce qu'il faut parler tout le temps des vins qu'on aime? Voilà, et puis il y aura aussi le Vino Quiz, un joli plateau avec une seule voix féminine, Hélène Piau, mais on y tient. Bonjour Hélène.
Bonjour.
Puis après, côté garçon, il y en a plein. Il y a Jacques Olivier Pesce, David Cobold, Philippe Orbrac et puis Bernard Burchi. Bonjour à tous les 4, 5.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour. Bonjour.
Alors pour commencer cette émission, Invino Sud Radio vous retrouve, vous, hein, Hélène Piau. Vous aimez les taxis anglais ou pas alors?
J'adore les taxis anglais. Et j'adore l'invité qu'on reçoit aujourd'hui, Antoine Becher. Bonjour.
Bonjour Hélène.
Alors, boire ou conduire, on nous a toujours dit qu'il fallait choisir. Bon, vous avez choisi, hein. Vous conduisez et vos clients boivent.
C'est ça, ça c'est
tout. Avec modération, Hélène, hein, pas de blague.
Eh ben, pas tant que ça, si je peux me permettre. Mais en même temps, ils conduisent pas, donc tout va bien. Vous avez lancé un concept original, un taxi londonien dans les vignes de Bordeaux. Alors bon, allez, on va démarrer dans l'ordre. Pourquoi un taxi londonien?
Pourquoi? Parce que je cherchais quelque chose de nouveau, quelque chose de décalé par rapport à tout ce qui existe dans le Bordelais, quelque chose qui puisse donner envie de visiter les vignes, de visiter les châteaux, d'aller découvrir de belles propriétés de façon différente.
Donc c'est de l'œnotourisme dans les vignes bordelaises. Alors, deuxième question, pourquoi Bordeaux?
Pourquoi Bordeaux? Parce que j'y ai déménagé il y a 6 ans, et puis un jour j'ai fait un wine tour qui m'a un peu ennuyé. Et je me suis dit que ça manquait d'un...
Vous l'avez organisé tout seul, Antoine, ou alors avec
Non, j'ai fait appel à un prestataire.
Alors, quel était le nom de ce prestataire?
J'ai oublié.
C'est moche,
vous David?
Non, ça n'était pas moi. Je vous rassure. Je vois un autre avantage à votre système, c'est que les taxis londoniens ne peuvent pas dépasser 80 km/h. Donc vous êtes déjà dans les règles pour les contrôles de vitesse.
Il y a une référence historique, c'est-à-dire le taxi à Bordeaux, c'est quand même retour aux sources.
Et oui.
Pour les Anglais.
Les Anglais, hein, c'est vrai, sont les clients les plus nombreux, effectivement. Ce sont des nostalgiques de Bordeaux. En tout cas, du taxi anglais, déjà. Et puis l'amour de Bordeaux, l'amour du vin, bien sûr.
Alors, vous proposez 8 balades classiques à thème. J'ai noté...
Hélène, pardon, je vous arrête tout de suite. Ce ne sont pas des balades classiques. Vous avez compris le concept ou pas?
Des balades hyper originales, à thème. Je disais classique par rapport au sur-mesure où chacun peut faire ce qu'il veut et cocher toutes les cases qu'il veut.
Vous êtes bien rattrapé, là.
Comment je m'en sors?
La conduite à gauche, c'est compliqué.
Je me suis rattrapée au volant du taxi, là.
À droite, volant.
À droite.
Oh, zut. 8 balades, donc, hyper originales. Sur le bio, le Sauternes, Pomerol... ou Saint-Émilion, Pessac Léognan, le Médoc, laquelle a le plus de succès?
Alors, Saint-Émilion, on va dire, en numéro 1. Pourquoi? Parce qu'il y a non seulement du bon vin, mais il y a aussi un joli village à aller visiter.
Bien sûr.
Donc, ce sont des balades à pied, avec des dégustations improvisées, bien sûr, parce qu'on ne fait jamais comme tout le monde, avec le Wine Cab, et bien sûr, en deux, on va dire, le Médoc. Voilà.
D'accord. On va tout de suite donner les tarifs, parce que je sais qu'Alain Marty sort le chéquier
pour nous emmener tous
en balade. Oui. Donc, pour ces promenades qui s'appellent la vie de château, une balade pour 2 à 4 personnes. Alain, il va falloir que vous fassiez un choix, on ne pourra pas tous y aller.
C'est
132 € par personne pour 4 heures, avec 7 dégustations, dont une champêtre. Expliquez-nous ça, Antoine.
Alors, 7 dégustations, puisque dans tous les châteaux visités, il y a plusieurs dégustations. On va dire une dégustation de plusieurs vins. Donc, chaque verre à déguster est une dégustation.
Très bien.
Je le comptabilise dans le package. Et ensuite, la plus belle, c'est la dégustation champêtre. Elle se fait dans les vignes, elle se fait au bord de la Garonne, et elle se fait de façon très conviviale.
Et que faites-vous s'il pleut? Parce que ça arrive quand même à Bordeaux. Hein.
Oui, nous avons tout prévu.
C'est une question en anglais, évidemment.
Bien sûr. Alors, il y a à bord du taxi un mini-bar.
Ah.
Voilà. Et donc, nous servons les bons vins blancs, parce qu'on aime la fraîcheur. Quand on a bu pas mal de vin rouge, on aime.
Avec modération, toujours pas de blague, Antoine.
Pour les clients...
Pour tout le monde.
Bon, pour tout le monde, très bien. Bon, alors, cette dégustation, on est bien, cette dégustation. Et on termine par, effectivement, la dégustation dans le taxi anglais, par un petit vin blanc, avant de rejoindre son hôtel.
Ouais. Et alors, vous partez de Bordeaux, je suppose?
C'est ça, on part de Bordeaux et on revient sur Bordeaux. Nos clients sont souvent dans les hôtels à Bordeaux. Voilà. Exactement.
Vous avez combien de cabs?
On en a deux et un troisième qui va arriver prochainement.
Alors justement, on va en parler de ce taxi qui arrive prochainement. On peut vous aider à l'acquérir sur la plateforme Tudigo. On peut via le crowdfunding. j'espère que je le dis bien, David Cobol, vous aider à acheter ce troisième taxi anglais qui sera couleur Bordeaux, pour le petit clin d'œil.
Et oui, exactement, il fallait ce taxi, et donc il va arriver, j'espère, très prochainement, grâce aux...
Comment ça coûte un taxi anglais ?
Grâce aux contributeurs. Un taxi anglais...
De bonne qualité, hein.
De bonne qualité, de très bonne qualité, ouais. Ça coûte autour de 8 à 10 000 euros.
8 à 10 000 euros. Et ouais. Est-ce que c'est incroyable ? Ça passe partout ?
C'est increvable. Les taxis anglais peuvent faire jusqu'à 1 million de miles, ce qui est énorme quand même.
Incroyable.
Voilà. Et
le moteur, d'ailleurs, c'est quelle marque ?
C'est un Nissan 2 litres 7. Ah oui. Donc,
c'est quand même
assez bas régime,
passionnant mais... sur une vidéo comme question, la Marty. Je vous remercie.
Mais là, on est loin des
voitures. Pour Automoto, c'est chouette aussi.
Sur l'émission de voitures de Sud Radio.
Sinon, moi, j'avais des questions sur Winecap à poser.
Allez-y.
Par exemple, je me demandais ce que faisait la cantatrice, le comédien, le fils de vigneron et le prof d'anglais qui font les chauffeurs. Ils chantent, ils dansent.
Alors, justement, oui. L'esprit OneCap, c'est aussi des accompagnateurs chauffeurs qui sont eux-mêmes un peu décalés aussi. Voilà. Donc
ils sont habillés comment, vos chauffeurs ? Ils sont normaux ?
À poil, à poil.
ils sont habillés déjà. Ils sont déjà habillés. Alors pour les vins bio, c'est vrai, c'est une bonne. On pourrait imaginer des tenues légères.
Très nature. Nature. Ouais. C'est bien ça.
Tournée nature.
Ouais. Qu'est-ce que vous pensez, Valérie ?
Pour les vins nus.
Mais c'est ça, quoi. C'est...
Comment vous êtes accueillis dans les châteaux bordelais ? Parce que sur votre site, on peut lire vous visiterez un château grand cru classé et puis vous irez à la rencontre d'un vigneron authentique à l'opposé de l'univers fortuné des deux grands crus classés, une visite remplie d'émotions et de partage qui vous laissera un souvenir impérissable d'authenticité. Ça veut dire que dans les châteaux grands crus classés, l'accueil est moins chaleureux,
peut-être ? La comtesse, c'est sympa la comtesse, non ?
L'accueil est différent. L'accueil est différent.
J'aime beaucoup votre diplomatie presque anglaise. Hein.
L'accueil est différent. Je crois que, effectivement, pour quelqu'un qui ne connaît pas bien le vignoble bordelais et qui veut découvrir les deux mondes du vin, le monde de la puissance, de la finance, le monde des grands crus classés, c'est bien aussi de rencontrer la personne qui fait son vin, de génération en génération.
C'est complémentaire et c'est une chance au Bordeaux.
Exactement.
Bon, ben, très bien. Donc, on a les prix, tout ça. Vous avez un site, non, Antoine, pour qu'on vienne massivement
www.wine-cab.com.
Voilà. Et puis, pour le code fourni, pour vous aider à acheter le troisième, c'est quoi déjà ?
C'est tudigo.co.
Merci beaucoup, Antoine et Hélène. Une vidéo sur Radio retrouve maintenant Philippe Abrac, qui est aussi un président de la Sommelier française, pour nous parler de l'AOP Cavardès. Alors, Philippe, dans quelle région sommes-nous déjà ?
Eh bien, nous sommes.
C'est en France ou pas ?
C'est en France. C'est la confluence entre les vins du Languedoc-Roussillon, si on veut, mais également du sud-ouest, puisqu'on est du côté de Carcassonne, dans l'Aude, pas loin de Limoux, une appellation que l'on a évoquée avec les Bulles la semaine dernière et David Cobold. Et c'est une appellation qui a comme caractéristique, un peu comme. Le secteur de Malpère qui est à proximité, pas loin de Castres, je l'ai dit tout à l'heure, à côté de Carcassonne, d'avoir une double influence. On est à la fois influencé par le climat, notamment océanique, mais également on est assez proche de la Méditerranée.
Et ça se ressent dans les vins, Philippe, ça ?
Ça se ressent dans les vins, d'autant plus que, du coup, l'appellation a la chance d'avoir à la fois des cépages atlantiques, Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, mais également des cépages méditerranéens comme le Grenache, le Syrah, le Fer Cervadoux, enfin des cépages qui sont effectivement très différents et rarement assemblés dans les appellations, en tout cas ensemble, ce qui est le cas ici. Alors il y a 450 hectares d'appellations sur 18 communes, un peu moins sans planter. La structure même, c'est pour l'essentiel aujourd'hui des caves particulières, elles sont au nombre de 24, et 3 caves coopératives. On s'aperçoit, comme toujours, que la coopération a quasiment sauvé les appellations, ou en tout cas la plantation de la vigne à une certaine époque, et qu'aujourd'hui, un certain nombre de vignerons, notamment les jeunes générations, sortent un peu de la coopération pour pouvoir s'affirmer eux-mêmes et élaborer des vins comme ils les aiment. Alors, l'essentiel des vins, donc la couleur principale, c'est le rouge, même si on fait un peu de rosé. Hein. C'est des rouges obtenus, je vous l'ai dit tout à l'heure, par cet assemblage tout à fait original de cépages, Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, mais aussi le Côte, que j'ai pas cité tout à l'heure, qui donne les beaux jours, effectivement, de l'appellation Cahors, pas très loin, mais qu'on trouve aussi dans la Loire. Le fameux Fer Cervadoux, dont le nom évoque la dureté du bois, et les tailleurs s'en souviennent d'une façon assez
ça donne difficile. Des tendinites.
Ça donne des tendinites. Maintenant, avec les sécateurs électriques, ça va nettement
c'est
mieux.
Quoi, mais
à l'époque, c'était
comme la Cabernet Sauvignon,
assez redoutable. Dur. Tout à fait. Et donc, le style de vin est intéressant parce que on vient chercher, grâce aux cépages de l'Atlantique, une certaine acidité, une certaine fraîcheur, entre guillemets, dans les vins, alors que les cépages méditerranéens donnent effectivement un peu plus d'opulence et de générosité. Et ça se sent bien en dégustation, parce qu'on a souvent des nez assez mûrs, et quand on est en bouche, on a une certaine réserve de fraîcheur, de tanin aussi, mais surtout l'acidité tout simplement qui permet d'équilibrer les vins. Du coup, ça donne des vins qui se boivent assez vite, mais qui peuvent se garder aussi. Dont des jolies cuvées résistent une dizaine d'années sans aucun problème, et peut-être davantage. Et l'appellation est jolie en plus. C'est un très beau secteur. Alors, il y a une propriété vedette qui est le château de Penautier, qui vient de remporter d'ailleurs le prix de l'onotourisme de nos confrères de Terre de Vin.
Propriétaire. Hein.
Exactement.
Famille de Lorgeril.
Mylène et son mari de Lorgeril. Et c'est vrai que ce petit Versailles du Languedoc fait rêver. Ils ont fait des travaux importants pour pouvoir faire en sorte...
Ça fait 20 ans qu'ils bossent comme des fous.
C'est vraiment un sacerdoce quasiment. Le jardin est magnifique. Donc on profite non seulement de cet environnement magnifique, mais aussi bien entendu de la qualité des vins qui sont produits, parce que les deux vont de pair. Parmi les autres domaines de la région, de cette appellation, le château de Jouclary... Sesquières, Osia, Ventenac, pour lequel j'ai moi un petit coup de cœur ces dernières années. Je trouve que vraiment ils travaillent particulièrement bien. Les rosés sont agréables. En dehors des repères actuels des rosés, c'est-à-dire c'est pas des rosés
moins pâles, c'est ça ?
Exactement, c'est pas des rosés nécessairement pâles et trop amyliques, en tout cas trop exubérants et un peu trop aguicheurs.
Du vrai rosé, quoi. Que,
voilà, hein, c'est assez intéressant.
Bon.
Et sont des vins agréables en termes de gastronomie, parce qu'on arrive à avoir des vins relativement accessibles en prix.
Combien ça coûte, Philippe ?
À partir d'une dizaine d'euros, on a les premières cuvées, et après, les cuvées spéciales peuvent monter à légèrement plus de 20 euros. Mais je pense que, franchement, ça vaut la peine. L'originalité, la qualité et la part de rêve apportée par ces lieux hors du commun valent la peine.
Même pendant ces vacances, la folie des Valais sont très sympas. Merci beaucoup, Philippe Aubrac. Merci à tous. Dans un instant, retour chez le caviste Nicolas à Paris. Nous parlerons de quoi ? De l'innovation.
Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Retour à la cave Nicolas, nous sommes à Paris, place de la Madeleine, pour cette émission en public et délocalisée avec Jacques-Olivier Pesse, aujourd'hui qui s'intéresse à l'innovation. Tout va bien d'ailleurs du côté de vos universités au Canada, en Australie?
Oui, c'est un sujet fort d'ailleurs, j'en dirai un mot tout à l'heure. L'innovation, ce sont des zones sur un sujet sur lesquels les wineries se posent souvent pas mal de questions. Je ne vais pas vous parler de vin aujourd'hui, ni de la réussite d'un vignoble, comme je le fais d'habitude, mais de ce qui permet de faire le vin, de bien faire le vin. Je vous parle également d'un sujet donc en vogue, vous l'avez cité, dans le vin comme ailleurs, l'innovation. Plein de choses se passent dans l'univers du vin. Honnêtement, lorsqu'on se balade dans les salons, on voit plein de nouvelles étiquettes, des codes couleurs qui évoluent, des univers créés, des formats de contenants, etc. Un secteur qui a beaucoup évolué aussi, sans que l'on s'en rende compte, c'est celui de la tonnellerie. Dans une approche voulue de plus en plus fine de la typicité recherchée des vins. Et à cet égard, l'exemple que j'ai pris aujourd'hui, en 2005, Thomas Moussier, qui a fait ses classes comme dirigeant dans la filiale Radou, en Espagne, décide de lancer sa propre entreprise de tonnellerie qui s'appelle Surtep et produit des barriques avec une approche très personnalisée qui répond aux besoins de la propriété. Chaque barrique est faite sur mesure avec une sélection de bois garantissant l'origine des forêts et est certifiée par le Bureau Veritas. D'ailleurs, en préparant ce sujet, j'ai appris qu'on ne pouvait pas acheter de barriques certifiées bio en France, ce qui me paraît assez incroyable en 2019 compte tenu toutes les approches que l'on a aujourd'hui sur ces sujets. Alors, je reviens à mon sujet. Thomas Moussier démarre en Espagne, puis en Argentine, en Italie, en France. Aujourd'hui, il vend 2000 barriques par an.
Et ça, bon, il crée une boîte, il vend des barriques, c'est ça de l'innovation pour
Alors,
vous,
ou... ça, c'est ce qu'on appelle une innovation de marché. Vous prenez un marché, celui de la barrique, servi par des acteurs bien structurés, expérimentés, et vous apportez une valeur ajoutée. Ici, c'est la personnalisation de l'offre. Cela peut paraître idiot, simpliste, mais dans un univers comme celui du vin, où l'identité est un avantage concurrentiel, produire des barriques qui correspondent à ces vins fait partie des critères de choix.
Et ça, tout le monde ne le fait pas.
Alors, à l'époque, en 2005, lorsqu'il fait ça, ce côté barrique personnalisé est beaucoup moins présent qu'il ne l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, évidemment, tous les tonneliers le font. Il est fréquent de voir des propriétés se fournir auprès de différentes tonnelleries pour justement posséder une variété de palettes aromatiques bien spécifiques. C'était beaucoup moins fréquent en 2005. Proche de ses clients, il a réussi à proposer une nouvelle offre bien définie, un peu haute couture, à prix compétitif, en quelque sorte, et donc était déjà innovante.
Donc il était novateur, et maintenant ?
Et maintenant, alors... Nouvelle innovation, hein. Il vient de lancer une nouvelle barrique, la barrique BioHawk, en brevetant un procédé de chauffe tout à fait unique, un procédé de chauffe de barrique qui permet de travailler la barrique sans aucune combustion traditionnelle de bois, en utilisant une colonne de chauffe remplie de pierres de lave. C'est un peu, si vous voulez, pour donner une image, le procédé existant pour chauffer votre sauna.
Ah ouais, c'est ce que fait régulièrement Hélène Pio, quoi.
C'est ça.
Ouais. Chauffe Hélène,
Hélène connaît bien. Alors, ça présente plusieurs avantages.
Le premier, évidemment, s'inscrit dans la mouvance environnementale actuelle. Des vins respectueux, évidemment, trouvent là un procédé en ligne avec l'engagement souhaité en faveur de méthodes plus douces. Deuxième avantage, la technique de chauffe. Vous savez que pour les tonnilles, elle est capitale. Permet une maîtrise des arômes de la barrique sans accentuer le boisé et favoriser ainsi l'expression du vin et notamment ceux qui veulent tendre plus vers le fruit. Et mieux, pour les propriétaires de terroirs composés de schiste ou de sol de basalte, on peut tout à fait envisager d'utiliser les pierres du sol de ces parcelles et jouer ainsi sur l'expression pleine et unique du terroir et accentuer ainsi le côté minéral. Donc, on revient sur l'avantage que j'évoquais tout à l'heure, que je trouve intéressant dans ce cas, celui de la personnalisation, encore et toujours, qui permet de marquer fortement son vin.
Bon, et si j'offrais une de vos barriques là, à ma belle-mère, par exemple, ça coûte combien ?
Il est sur un position en prix de marché, hein, 1670 € la barrique livrée.
Ça, c'est prix normal, Jacques-Olivier ?
Oui, une barrique, généralement, tourne autour de 600-650 €. Pour faire ça, hein, on va dire une Transis 700 €. Donc, d'accord, on est un peu au-dessus du marché, mais sur une approche qui est tout à fait nouvelle. Ça peut coûter beaucoup plus cher si vous décidez, là encore, en préparant ça. J'ai appris que l'on pouvait utiliser des diamants comme combustible, parce qu'apparemment, la conductivité des diamants ou des pierres précieuses ou semi-précieuses est absolument excellente.
Non, mais là, il faut être au moins meilleur sommelier du monde pour se payer.
Imaginez, hein, dans le vin. Mais voilà, je reviens sur cet exemple qui me semble, et c'est important, vous me posiez la question de savoir sur les nouvelles australiennes ou nord-américaines. Je rencontre beaucoup de wineries qui se posent sans arrêt la question, qu'est-ce que je peux faire de nouveau ? Alors évidemment, c'est toujours très orienté client, mais vous avez ici un bon exemple d'innovation comme vecteur de croissance avec deux types d'innovation dans leur expression théorique. La première, plutôt la dernière, c'est une innovation technique, c'est l'innovation de produit, le nouveau procédé de chauffe. Et puis la première, c'était ce qu'on appelle une innovation de marché qui a permis de démarrer le business en repensant l'offre et le modèle économique. Dans les deux cas, ces innovations proposent et amènent un avantage concurrentiel.
Très beau sujet, comme d'habitude, David, vous vouliez vous exprimer.
Oui, ouais, ça me rappelle furieusement que lorsque je travaillais dans une maison de champagne avec une étiquette jaune et mon patron s'appelait Joseph Henriot, un homme que je respectais beaucoup. Il m'a dit chaque année, si vous arrivez à me trouver des bulles carrées, je vous augmente.
Alors vous avez stagné, non ?
J'ai jamais réussi.
Bon, David, merci en tout cas, Jacques-Olivier Pespil, Vilo Sud Radio. Vous retrouve David Cobold, vous qui avez cofondé l'Académie du vin de Paris. Alors aujourd'hui, on parle quoi ? Des vins que vous aimez ou ceux que vous détestez ?
Ben justement, voilà la question. Faut-il ne parler que des vins qu'on aime ? Donc il y a deux approches. Et je dirais que cette question est fondamentale pour la déontologie d'un dégustateur journaliste. Il y a deux approches. La première est on ne parle que des vins qu'on apprécie. C'est un peu l'inverse du principe du dicton, on ne parle jamais que des trains qui n'arrivent pas à l'heure.
Oui,
là, on ne parle que des trains qui arrivent à l'heure. C'est-à-dire qu'on ne parle que des vins qu'on considère comme bons. Je mets des guillemets, évidemment, autour du mot bon, parce que chacun...
Chacun a son bon.
Chacun a son bon et son mauvais aussi. Et on pourrait résumer cette position par le mot de l'acteur Alain Marty a bien connu, qui s'appelait Philippe Néricault, qui vivait au 18e siècle.
Monsieur, un grand copain, on a beaucoup joué au rugby ensemble.
Et qui a dit, la critique est aisée, mais l'art est difficile.
Oui.
Autrement dit, il est plus facile de critiquer que de faire, ce qui est assez vrai. La deuxième approche, que je dirais est plus consumériste, est de parler de tous les vins, y compris les mauvais. Parce que là, on prend quelque part la défense du consommateur en disant, si vous allez dans telle et telle région, et vous êtes confronté à ce vin-là... Peut-être à éviter celui-là.
Ouais, c'est compliqué.
Celui-là est en deçà du niveau moyen. Moi, j'adopte plutôt cette position-là. Alors, chacun défend la position qu'il veut, mais je dirais que ma position, j'estime, est peut-être un peu plus dangereuse dans tous les sens du terme. J'ai eu récemment un mail incendiaire d'un vigneron dont j'avais critiqué le vin, me demandant de faire un dédit. Alors, je signale que ce n'était pas sur un site payant, c'était sur un blog gratuit. Donc, je m'estime que je suis libre de parler du moment où je justifie mon opinion.
Et alors, pour rejoindre ce monsieur-là, si demain vous goûtez un vin, il n'est pas bon, vous le dites.
Oui.
Libre à vous, dans une démocratie, vous avez le choix.
Oui.
Est-ce que vous allez, dans un an, deux ans, trois ans, le regoûter quand même ? Ou alors, évidemment, il sera aditam et aeternam ?
Non, pas du tout. Ah. Chaque bouteille est différente, quelque part. Chaque bouteille est un individu. Et j'ai proposé à ce monsieur de m'envoyer une autre bouteille. Et si je trouvais qu'il était bon, que j'allais dire, la deuxième bouteille était bonne. Ben, je n'ai pas encore sa réponse, donc je ne sais pas. En tout cas,
j'ai sur la tête.
Je prétends aussi qu'il en va de la liberté de la presse, cette affaire-là. C'est-à-dire que si on n'est pas libre de critiquer, on n'est pas libre.
Allez, parlons-en parce que c'est un vrai bon sujet. Hélène Piau, le monsieur, il fait du mauvais vin plutôt, on en parle ou pas?
Alors moi, je n'en parle pas pour une raison très simple, c'est que j'ai des lecteurs ou des auditeurs qui vont m'entendre ou me lire dire « Alors vraiment, ce vin-là, il est épouvantable. » Et là, on est samedi, il est 16h, l'un des deux dans le couple est en cuisine et prépare un bœuf bourguignon, une salade de pâtes, ce qu'il veut, un ceviche, et l'autre va acheter le vin en conséquence. Ils arrivent chez le caviste ou en grande surface, ils voient un rayon qui fait entre 300 et 3000 bouteilles, oui, et ils disent « Ah, celui-là, faut pas l'acheter. La dame, elle a dit que c'était très mauvais. » J'ai failli dire autre chose. Très bien, et maintenant, on fait quoi? Oui. Alors que si je dis « Ça, c'est hyper bon, allez-y, foncez. » Et en plus, je vous donne la Corbeil-Essonnes avec une blanquette, c'est top.
Mais vous faites les deux, Hélène, vous parlez des bons
j'ai
et des mauvais.
Place. Dans mon magazine, j'ai pas la place pour faire.
Alors là, on voit David qui a un avis et Hélène qui a un avis un petit peu différent.
Bon, je pense que cette position un peu duale, c'est-à-dire bon, pas bon, je pense qu'il faut la nuancer un petit peu, parce qu'il y a des vins dont c'est pas forcément la tasse de thé. Alors que, par exemple, les vins très boisés n'est pas ma tasse de thé, mais je sais qu'il y a une partie de public qui aime ça. Et donc, moi, je vais faire preuve de pédagogie, je vais dire, je vais expliquer le vin.
D'accord.
Je ne vais pas le détruire en disant, non, c'est vraiment mauvais. Non, je vais dire, attention, ce vin est très boisé, probablement réservé aux gens qui aiment ça. Non, ici.
D'accord.
Voilà, donc ici, donc je pense que.
Mais boisé Bernard, alors, c'est une caractéristique. Il y a aussi des mauvais vins qui sont mauvais vins tout court.
Enfin, oui, bien sûr. Il y a effectivement des vins
à défaut.
Des vins à défaut graves. Donc là, ben, j'explique le défaut.
D'accord.
Non, donc c'est de la même manière.
En précisant peut-être que si un vin, une cuvée n'est pas bonne, les autres, ça peut-être sont bonnes, non?
Oui, c'est possible.
Oui, c'est vrai. Et alors, la critique n'est pas si aisée que ça, parce que moi, je considère que détruire un vin, hein, c'est beaucoup plus compliqué que de dire du bien. Parce qu'il faut, faut le motiver, il faut justifier pourquoi. Et donc, moi, à chaque fois qu'effectivement, je trouve qu'on se fout de la gueule, si je puis me permettre. Hein, donc ici, donc, ça prend beaucoup de temps pour expliquer pourquoi. Voilà, donc en particulier quand le vin est très cher. Hein, donc ici, et que...
Jacques-Olivier, vous en pensez quoi? Parce que là, on a trois avis différents. Hein,
Moi, je vais vous raconter juste une histoire. Ça me fait penser, récemment, en Australie, je participe à un jury de dégustation qui était composé d'experts vins et de personne comme moi, amateur, ou travaille dans la filière. Et la remarque de l'organisateur a été celle-ci. D'entrée, il me dit « Jacques-Olivier, en bon français, bon bordelais, je n'attends pas de toi que tu juges les défauts que tu trouves au vin, mais je prends le terme anglais, sa drinkability, sa buvabilité.
Oui, »
Alors, ce n'est pas exactement le sujet, mais on voit bien...
Philippe Forbat, vous en pensez quoi, vous? Parce que, bon...
Je suis assez d'accord sur la nuance entre ce qui est bon, ce qui est moins bon, etc. S'il y a un défaut, je pense qu'il faut savoir le dire et l'expliquer. Après, s'il vous plaît ou s'il ne vous plaît pas, vous pouvez aussi justifier ça. Nous, à table, en tant que sommelier, il y a souvent ce débat. On est allé dans tel endroit, j'ai goûté tel vin, ça ne m'a pas plu, ou j'ai adoré tel vin, et un vin que finalement, moi, je n'ai pas tellement aimé. Ouais. Il faut pouvoir échanger avec les gens tout en respectant leur propre goût, parce qu'il y a vraiment une question de goût dans le vin. Après, il peut y avoir des défauts. Si la bouteille qu'on a ouverte décemment ou indécemment, elle est oxydée, elle est pleine de Brettanomyces, etc., il faut savoir aussi le dire où il y a un défaut. Mais souvent, c'est des défauts sur une cuvée.
David est une personnalité du vin. Quand David Goel parle, ça a une certaine influence. Il faut le faire, ça, ou pas?
Mon influence est extrêmement limitée.
Je respecte
le nombre de lecteurs de ce blog, c'est autour de 1000 personnes par jour.
Je respecte suffisamment David pour apprécier ce qu'il fait. À partir du moment où c'est argumenté avec certaines nuances, pourquoi pas? Voilà. Mais je pense qu'on a plus d'énergie à dépenser, j'allais dire, pour donner les bonnes adresses et les bons conseils aux gens, parce que souvent, à part si c'est un défaut, je le répète, c'est souvent une question assez personnelle.
Oui, c'est vrai. David, pour terminer.
Je dirais qu'il faut les deux. Moi, je ne parle essentiellement que des vins que j'aime. La preuve, tout récemment, j'ai fait un coup de cœur. Et je parle assez rarement de choses que je n'aime pas. Mais quand un vin a un défaut, Bernard a absolument raison quand il dit qu'il faut situer, il faut expliquer, il faut mettre ça dans un cadre. D'abord, le contexte. Si vous aimez ce style de vin, ça peut vous plaire. Là, dans l'occurrence, c'est un vin qui, pour moi, avait un grave défaut. Je l'ai dit et j'ai donné la raison.
Merci à tous. Hein. Merci Hélène Piau, Jacques-Olivier, Philippe Forbach et David de Cobol. Le fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site sudradio.fr, invinoradio.fm ou notre page Facebook Invino. On se retrouve samedi prochain, 12h30 précise, toujours en public et délocalisé chez le caviste Nicolas, qui était fondé en 1822. D'ici là, excellent déjeuner. Maintenant, restez à l'écoute de Sud Radio. Maintenant et surtout, tout le temps, observez la plus grande des modérations.
Sud Radio Invino.